Voilà, nous nous retrouvons ce matin pour reconsidérer une fois de plus, parce que nous la connaissons déjà, la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Une vie qui est, on peut dire, un prototype de vie chrétienne. Parce qu'il y a chez elle une expérience du péché réelle, conséquente, jusqu'au moment de sa conversion, c'est-à-dire à l'âge de 40 ans, et aussi à partir de sa conversion, et même aussi déjà avant, sans peut-être qu'elle le perçoive de manière très claire, comme nous, une véritable expérience de salut. Donc je voudrais avec vous aborder la vie de Sainte Thérèse ce matin sous ces deux points, sous ces deux volets, expérience du péché, expérience du salut. Et pourquoi commencer par cette expérience du péché ? Parce que c'est précisément ce qui la rend proche de nous et qui fait d'elle une véritable sœur. Expérience du péché chez Sainte Thérèse d'Avila, je vois trois axes majeurs. Tout d'abord, elle ne profite pas du bon environnement que Dieu lui donne. Deuxièmement, elle se recherche elle-même, et non pas son Dieu, dans beaucoup, beaucoup de domaines. Et troisième axe, elle est très attirée par les distractions, très dépendante de toutes sortes de divertissements. C'est pas mauvais de se divertir, mais trop, oui. Alors, considérons, si vous voulez, ces trois axes majeurs de l'expérience du péché chez Thérèse. Tout d'abord, elle ne profite pas du bon environnement humain qui lui a été donné, à commencer par ses parents. Elle évoque cela au premier chapitre de la Vida, en disant qu'elle n'a pas su tirer parti de l'exemple vertueux de ses parents, comme elle dit. Elle n'a pas su profiter de l'influence positive de ses parents, comme si elle n'avait pas pu recueillir la leçon de leur témoignage de vie. Vous voyez, ce n'est pas comme petite Thérèse. Petite Thérèse, à l'école de Louis et Zélie, elle va aller tout de suite dans la sainteté. Thérèse d'Avila, ce n'est pas du tout son cas. On dirait qu'elle s'ingénie même à fréquenter des mauvaises relations. Elle ne sait pas profiter de ses parents, mais elle ne sait pas profiter non plus, elle le raconte elle-même, d'une religieuse de son couvent qui l'exhorta à plus de vertu et contre laquelle, un peu orgueilleusement, elle s'est fâchée au lieu d'écouter ses bons conseils. Dans son adolescence, vous savez que Sainte Thérèse a été très marquée par les mauvaises fréquentations de ses cousines et de ses cousins qui l'ont entraînée dans une superficialité, dans toutes sortes de frivolités, d'insouciance, de mondanité. Elle a donc, semble-t-il, tout fait pour aller vers le mal, se laisser glisser vers le vice, pour se perdre. C'est manifeste, cela, dans la résistance qu'elle oppose à l'appel de Dieu sur elle. Elle se laisse aussi difficilement influencer par la présence de Dieu dans sa vie. L'état religieux lui inspire de l'aversion et du dégoût, parce qu'effectivement, entrer dans la vie religieuse, c'est quitter le monde, c'est quitter beaucoup, beaucoup de choses. Et on ne se voit pas, hein, enfermé dans cet étui qu'est l'habit religieux, et encore moins dans cet étui étroit d'une clôture pour les religieuses. Et nous connaissons aujourd'hui de ces garçons et de ces filles qui ressentent bien un petit quelque chose d'un appel à la vie consacrée, mais qui dit qu'ils se figurent l'état de vie religieuse, partent en courant. Il fuit en courant. Il faut du courage pour entrer dans la vie religieuse. Thérèse en manque. Et c'est pour ça qu'elle file du mauvais coton, elle va sur des chemins de traverse. Voilà pourquoi elle est tiraillée par le monde et par cet appel de Dieu qui est là et qui plane sur elle. Il va donc falloir que le Seigneur lui fasse violence, qu'il se rende présent à elle d'une manière impérieuse, et finalement, c'est par crainte de l'enfer que Thérèse, plus soucieuse de son salut que de s'offrir généreusement au Seigneur, va décider de rentrer dans la vie religieuse. voyez, donc c'est un premier point important. Elle ne profite pas de ce bon environnement humain que Dieu met à sa disposition. Elle fait même le contraire. Elle va vers des mauvaises fréquentations. Deuxième point. Thérèse se recherche elle-même dans beaucoup de domaines. Alors j'ai ciblé quelques points qui me semblent un peu essentiels. Tout d'abord, elle aime plaire. C'est une femme. On peut le lui pardonner. Ah, non, mais c'était pour vérifier si vous écoutiez. Voilà. Elle aime plaire. Elle aime plaire. Elle aime séduire. Elle aime séduire. Elle aime être admirée. Et d'ailleurs, parce que c'est une femme, elle y réussit très bien. Elle a beaucoup de qualités. Elle est d'abord féminine. Et tout le monde l'apprécie à cause de cela, de sa féminité, de ses qualités. Ainsi donc, Thérèse se recherche elle-même dans ses relations. Pas seulement pour être admirée, mais aussi pour être aimée, comme nous. Elle aime plus à être aimée qu'à aimer. Je me souviens d'un jeune qui un jour me disait « Père, je cherche une femme qui m'aime. » Ben, je te conseille plutôt de chercher une femme à aimer, ça serait peut-être mieux. Vous voyez ? Nous aimons à être aimés. Et il y a ainsi, vous voyez, toute une complaisance en soi-même quand on s'évertue à attirer les regards, à être considéré comme une personne bien pensante, etc., etc., etc. Cela la met en danger. Cela l'engage dans toutes sortes de vanités, d'orgueil de la vie, de coquetterie physique, mais surtout de coquetterie spirituelle. Je vous rappelle la rencontre avec cet ecclésiastique qui est dans une mauvaise passe, avec lequel elle se lie d'amitié et qui finit par s'attacher à elle. Et elle aussi à cet ecclésiastique, en tout bien tout honneur, en tout bien tout honneur. Mais avec du recul, elle se rend compte que cette relation d'amitié trop particulière, trop dépendante, aurait pu mal tourner parce qu'elle est sensible, parce qu'elle attire justement l'amour, et à un moment donné, elle peut en être totalement piégée. Quand elle est hébergée chez son oncle, très pieux, durant sa maladie, elle lui lit des livres de spiritualité qu'il aime à entendre. Mais en fait, elle fait tout cela, et elle le dit, elle l'avoue elle-même, elle fait tout cela pour lui plaire, afin d'être aimée par son oncle. Vous savez, ce souci obsédant d'être appréciée, d'être adulée, et d'attirer l'amour, afin de nous en nourrir et de nous en repaître avec toutes sortes d'avidité. Continue encore, toujours dans cette recherche de soi. Elle agit toujours dans le cadre de sa fierté, d'un honneur qu'elle défend. Ce qui est important pour elle, c'est l'image qu'elle donne. Et c'est cette image qu'elle donne qui va mobiliser toutes ses forces et toute son énergie. Ce qui est important pour elle, c'est qu'elle jouisse d'une bonne réputation. Là où va s'arrêter son péché, c'est quand elle sent qu'elle peut devenir un objet de scandale et qu'on peut venir à la montrer du doigt et devenir asociale. Mais si nous fuyons le péché, c'est pas parce qu'on risque de nous montrer du doigt. Si nous fuyons le péché, c'est parce que nous voulons aimer le Seigneur et le glorifier et correspondre dans l'amour à sa sainte volonté. Ben non, Thérèse, du tout, elle n'est pas du tout là. Elle fuit le péché parce qu'elle ne veut pas devenir une proscrite. Elle fuit le péché parce qu'elle ne veut pas qu'on la montre du doigt. Quand elle sent que ses cousines vont l'amener trop loin, elle décide de rompre et d'entrer au couvent. Mais pour soigner sa réputation. Pour ne pas aller en enfer, mais aussi pour soigner sa réputation. Parce qu'elle est une fille de la noblesse espagnole. Ça ne se fait pas de devenir une fille des rues. On a regardé récemment en communauté le film Marius. Effectivement, la pauvre Fanny, hein, qui a été engrossée avant le mariage, voilà, ça lui tombe dessus et c'est fini. Vous voyez, elle sent que pour elle, la vie sociale n'est plus possible et elle va même accepter d'être épousée par ce vieux Grigou de Panisse, vous voyez, pour échapper au déshonneur. Thérèse d'Avila est complètement là-dedans. Et un peu nous aussi. Et un peu nous aussi. Comme nous conduisons la vie spirituelle, la vie morale, souvent, vous voyez, pour nous faire une place au soleil, dans le cadre d'une société bien pensante. Tout ça, c'est à purifier. Tout ça, c'est à purifier. Ainsi donc, chez Sainte Thérèse d'Avila, ce qui compte, ce qu'importe, c'est que les choses restent cachées. Homme du jour, homme de la nuit. Tant que je peux fricoter et que ça se voit pas, et que ça se sait pas, et que l'honneur est sauf, je continue, en ménageant ainsi la chèvre et le chou, en ayant les deux pieds dans les mêmes souliers, assis entre deux chaises. Comme c'est difficile de choisir pour la gloire de Dieu, pour la satisfaction de sa volonté sur nous, de jour comme de nuit, dans ce qui se voit comme dans ce qui ne se voit pas par nos frères et sœurs en humanité. Autre lieu où elle se recherche elle-même, dans son déploiement de vie apostolique, on pourrait dire, c'est quand même formidable, elle évangélise Avila dans les parloirs, elle apprend le goût de Dieu, elle apprend la pratique de l'oraison, et elle le fait très bien. Oui, mais elle fait tout cela une fois de plus, en se servant du Seigneur, en se servant de l'apostolat, pour se construire un personnage. Un personnage bien en vue. Un personnage référencé. Nous servons le Seigneur, mais est-ce que nous le servons, nous, en tant que religieux, qui pratiquons l'apostolat et dans le Carmel séculier, nous servons le Seigneur pour lui, ou nous le servons indirectement, inconsciemment, pour nous, pour notre gloriole? Ce sont des questions que nous voulons poser. On va se confesser ce soir. Alors c'est ça qui est pratique, c'est que avec ce petit check-up de l'expérience du péché de Sainte Thérèse d'Avila, on va pouvoir commencer à préparer notre examen de conscience. Donc vous pouvez noter au fur et à mesure, discrètement, pour pas que votre voisin se rende compte de ce que vous allez confesser ce soir. Troisième point, dans cette expérience du péché, les distractions et les divertissements. Thérèse se disperse énormément dans des choses futiles qui sont sans importance pour satisfaire toujours et encore toujours par les plaisirs et les attraits de la vie sensible son moi, son petit moi. Par exemple, elle dévore des romans de chevalerie. Si elle avait vécu aujourd'hui, elle aurait passé son temps sur Internet à coup sûr. Malgré l'interdiction de son père, voyez, elle lit les romans de chevalerie, ce qui en soi pas mauvais. Aujourd'hui, on ferait bien d'ailleurs de revenir à cela. Mais elle les lit avec une telle avidité qu'elle les lit pour se faire plaisir, pour jouir du plaisir, hein, finalement, pour se distraire. Vous voyez, comme on va à Luna Park ou comme on va dans les fêtes foraines. Cette recherche du plaisir, de la distraction. Donc à travers les romans de chevalerie, et puis aussi dans toute autre sorte de lieux de distraction qui font qu'elle préfère cette satisfaction personnelle à la gloire du Seigneur et qui fait qu'elle ne choisit pas de rompre, comme elle dit, avec les péchés véniels. Elle évite les péchés mortels, mais elle n'évite pas les péchés véniels. Combien de fois nous pouvons nous dire « Oh, mais ça, c'est pas grave !» Oh, mais ça, quand même, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Il faut bien vivre dans ce monde. Il faut essayer de rendre la vie de ce monde la plus agréable possible. On souffre déjà assez comme ça, mon père. Et oui, mais on pouvait comme ça, en ne plaçant pas le Seigneur vraiment au centre de nos vies, perdre un peu de temps et ne pas purifier notre désir de Dieu parce que le créer prend trop de place dans notre vie. Le créé doit avoir sa place, bien sûr. On ne peut pas arrêter de manger, de boire et de dormir. Mais le créé doit pouvoir et doit toujours garder sa juste place. Et c'est dans cette intempérance, à la recherche de notre plaisir, dans toutes sortes de satisfactions, de distractions, que nous enferrons comme ça dans une expérience du péché. Parce qu'on n'est pas décidé à rompre. Parce qu'on ne fait pas véritablement le choix de Dieu. On veut tout. L'argent. Et Dieu. La jouissance. À tout craindre. Et Dieu. Le travail, à tout rompre, parce que c'est notre idole, et Dieu. La cigarette, et Dieu. L'alcool, son petit whisky, tous les jours, et Dieu. Le Masterchef, régulièrement, et Dieu. Et comme ça, il n'y a jamais d'ascèse, et comme ça, il n'y a jamais de renoncement. Eh bien, nous savons qu'une vie chrétienne qui est sans renoncement, une vie chrétienne qui ne cherche pas à mettre la main sur nos lieux d'addiction et de dépendance, c'est une vie qui manque Dieu. En tout cas, qui retarde dans la recherche de Dieu. Et ça a été l'écueil de Sainte Thérèse d'Avila. Voilà, j'arrête sur cette expérience du péché. Je pense qu'il y en a assez pour nourrir notre examen de conscience et pour prendre conscience, prendre la mesure de Sainte Thérèse d'Avila qui, jusqu'à l'âge de 40 ans, a vécu là-dedans. Voyons maintenant, chez elle, l'expérience du salut. Parce que, Dieu merci, malgré ce péché, Thérèse a des atouts. Des atouts qui vont lui permettre de garder la main sur le Seigneur et de cheminer cas un cas vers lui, avec lui. Tout d'abord, le Seigneur a une importance dans sa vie. Elle n'est pas indifférente à Dieu. Au contraire, loin de là. Et c'est d'ailleurs cela, cet attachement à Dieu, qui va être la source et la cause d'un véritable combat en elle. Parce que si elle est prisonnière de la chair et du monde, elle se veut aussi à Dieu. Et la voilà donc divisée entre le monde, la chair, et l'attrait de cette vie divine. Elle va s'user dans cette division, dans cet écartèlement, pendant plus de 20 ans, ne parvenant pas à choisir, dans une ambivalence qui épuise son âme. Quand elle se vautre dans la chair et le monde, elle est amère d'avoir abandonné et délaissé son Dieu. Et puis quand elle fait le choix de Dieu et qu'elle tourne le dos à la chair et au monde, elle en a la nostalgie. Ce qui fait que quand elle est dans le monde, elle n'en profite pas vraiment parce qu'elle regrette d'avoir perdu son Dieu. Et quand elle est avec son Dieu, elle n'en profite pas tellement non plus parce qu'elle a la nostalgie et le regret des oignons d'Égypte et du monde qu'elle laisse. La voilà donc comme suspendue en permanence entre ciel et terre. Ni totalement dans les choses de la terre, ni totalement dans les choses du ciel. Il n'y a rien qui nous épuise plus, frères et sœurs, que de ne pas nous décider à choisir. Et à choisir une bonne fois pour toutes. Alors, dans cette expérience de salut, et dans ce tiraillement, nous avons deux choses qui me semblent fondamentales. Tout d'abord, une intervention générale de la grâce de Dieu à l'œuvre dans sa vie. Et ensuite, une intervention particulière de Dieu dans sa vie. Voyons ces deux volets dans l'expérience du salut. Intervention générale de la grâce et intervention particulière de la grâce. L'intervention générale, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce capital humain de qualité, de dons, de vertu morale que Dieu nous a donné secrètement, de bas en haut, incognito, par les dispositions de notre nature. Et Dieu merci, si on est attiré par le mal, on est aussi attiré par le bien, en vertu de cette bonne nature que le Seigneur nous a donnée. Ça va être à nous, finalement, d'aller chercher au fond de nous-mêmes ce qu'on a de meilleur et que Dieu nous a donné afin de cultiver ce bon grain jusqu'à étouffer l'ivraie. C'est vrai que plus je suis bon et je m'adonne au bien, et moins il y a de place au mal et au vice dans ma vie, jusqu'à ce que le bien me prenne tout entier, tout entière. C'est une dynamique, le bien. Plus je suis bon, plus je suis capable de choses bonnes, et plus je deviens ennemi du mal et dans la détestation du péché. Au contraire, plus je laisse monter des pulsions de haine en moi et je m'y adonne, plus ces pulsions de haine me gagnent, ont d'emprise sur moi et finissent par me boucler, me verrouiller dans la haine. Une dynamique aussi logique dans le mal. Plus je suis mauvais, plus je tends à poser des actes mauvais qui me rendent encore plus mauvais que je ne suis et qui m'inclinent à poser des actes encore plus mauvais. C'est comme ça que plus je cherche le bien en moi, plus j'ai de chances de me sauver. Plus je laisse le mal me dominer, plus j'ai de chances de me damner. Car le ciel et l'enfer existent. J'y peux rien, c'est comme ça. Alors voyons, si vous voulez, ces dons naturels, voyons ces qualités humaines que le Seigneur a données à Sainte Thérèse d'Avila, hein, dans une vie spirituelle qui est là avec cette expérience du péché, malgré tout. D'abord, elle a un bon fond. Elle a de bonnes inclinations, comme elle dit. Je vous rappelle que, toute petite, elle forme le projet d'aller mourir martyr chez les morts, à l'extérieur de la ville d'Avila, dans l'arrière-campagne, hein, pour être témoin de Jésus, d'être témoin de Dieu. Après tous ces romans de chevalerie qu'elle a lus, auxquels elle s'est identifiée, c'est là qu'on voit qu'elle a un bon fond, elle a ce désir d'aller mourir martyr. Et toute petite, ça va échouer, comme vous le savez, puisqu'elle va être rattrapée par sa famille. Mais aussitôt qu'elle revient à la maison avec Rodrigo, qu'à cela ne tienne, puisqu'elle ne peut pas aller mourir martyr en versant son sang, elle mourra martyr en donnant sa vie à Dieu par la vie solitaire et la vie d'ermite. Elle commence comme ça à bâtir son premier ermitage. Hein, à quel âge, Marie-Laurent ?
À 10 ans.
J'interroge les spécialistes qui sont au premier rang. Hein, à 10 ans. Et avec Rodrigo, son petit frère, elle médite sur le toujours de la vie éternelle. À l'âge de 10 ans, on a déjà des capacités de vision métaphysique. Le toujours, toujours, toujours. Assez tôt, elle prend conscience de la vanité des choses de ce monde. Le jour où elle voit une sœur en religion malade, très malade, assumer cela dans une grande patience, totalement soumise, dans l'acceptation de la volonté de Dieu et des chemins de sanctification sur elle, elle est profondément édifiée. Et elle va émettre le désir de recevoir cette même grâce. On a autour de nous des frères et sœurs qui sont édifiants. Au lieu de les jalouser et de vouloir systématiquement atténuer leurs mérites, voyez, pour en s'appuyant sur eux, nous trouver au-dessus d'eux. Regardons ces mérites, contemplons-les et demandons la grâce d'être hissés avec eux à ce degré de sainteté. Autre bon fond, signe de son bon fond, elle ne dit du mal de personne. Elle n'a pas de mauvaise langue. Elle ne critique pas. Elle s'attache toujours à respecter l'honneur des absents. Alors ça va être purifié chez elle, parce que là-dedans aussi elle se recherche, puisque elle avoue qu'elle ne veut pas médire des autres parce qu'elle craint qu'on médise d'elle. Elle a dit, si je dis pas du mal des autres autour de moi, les autres seront inclinés à ne pas en dire de moi non plus. Oui, mais bon, on ne dit pas du mal des autres parce qu'on les respecte, parce qu'on les aime et qu'on voit le bien en eux. Pas pour qu'ils nous respectent et voient le bien en nous. Vous voyez, toujours cette force centripète qui ramène tout à nous-mêmes. Bon, mais enfin quand même. Hein, elle n'avait pas de mauvaise langue et elle respectait ses frères et sœurs. Ensuite, dans cette intervention générale de la grâce en elle, dans ce côté positif de sa vie spirituelle, deuxième chose, deuxième point, c'est une femme, une femme. C'est une femme. En quoi? Dans son courage et dans sa détermination. Car une femme, c'est a priori quelqu'un de courageux et quelqu'un de déterminé. Ben oui, quand même. Oui, mais les hommes aussi doivent applaudir. Voilà. Thérèse d'Avila, courageuse, déterminée. C'est une femme qui a du chien, qui a un tempérament. Elle sait se faire violence. Elle sait se faire violence, et notamment pour répondre à cet appel de Dieu qui la presse, contre lequel elle résiste, mais avec lequel elle va finir par abaisser les armes, parce que elle veut Dieu. Et elle va se décider à rentrer dans ce monastère de l'incarnation, c'est-à-dire dans ce cercueil que Dieu lui a préparé. Hein, elle va se décider à cet enterrement de première classe de la vie religieuse que le Seigneur lui propose. Parce qu'elle aime le Seigneur et que malgré tout, le Seigneur est quand même plus important qu'elle et elle préfère Dieu à elle-même malgré tout, même si elle a aussi cette recherche d'elle-même. Nous sommes dans une ambivalence comme ça. On a le meilleur, on a le pire, hein, mais il y a ce meilleur aussi chez Sainte Thérèse d'Avila. Et donc elle va se faire violence, elle va rentrer dans cette vie religieuse à laquelle le Seigneur l'a appelée. Elle va être aussi malade pendant 3 ans d'une maladie très mystérieuse. J'ai envie encore d'interroger les spécialistes du premier rang. Enfin, cette fameuse maladie qui l'a amenée à être percluse sur un lit et qui l'a amenée jusqu'aux portes de la mort et à recevoir la cire sur les yeux et les dernières prières qu'on adresse aux agonisants. Donc Sainte Thérèse d'Avila a été jusqu'à être tenue pour morte au bout de ses 3 ans de maladie. Eh bien, malgré cela, elle a, pendant ces 3 ans-là, persévéré dans sa sequela Christi, dans sa vie religieuse, dans ce qu'elle avait à vivre et que le Seigneur lui demandait de vivre comme elle pouvait avec cette maladie. Et cela, c'est tellement important que nous puissions continuer, même si nous sommes réduits à marcher à 4 pattes. Nous avons tous des poids sur nos épaules. Nous avons tous des croix. On voudrait que le Seigneur nous les enlève. Mais ce n'est pas forcément une bonne chose. Il est peut-être bon que nous gardions ces croix. Parce que se creuse dans ces croix et la persévérance avec ces croix, une fidélité, une purification dans l'amour. Et à travers ces croix que nous voulons bien supporter, avec lesquelles nous continuons de vivre, développer, entretenir, fortifier, ce choix de Dieu. Ici-bas, notre vie n'a de sens et de raison que dans le choix de Dieu que nous y faisons. Pour les anges, c'est plus facile. Ce choix de Dieu se fait dans l'instant de leur création, rapide comme un éclair. Ben nous, ça prend 30 ans, 50 ans, 70 ans, 80, 90 ans. Il ne restera de notre vie, quand nous paraîtrons devant Dieu, que ce que nous aurons choisi de lui. Dans la confrontation au péché, à la tentation, à l'intérieur de nous-mêmes et à l'extérieur de nous-mêmes. Finalement, peu importe ce qu'on vit, dans quelque temps où nous vivons. Ce qui compte, c'est que dans ce que je vis et dans le temps où je vis, j'y fasse le choix de Dieu. Dieu seul suffit. Dieu seul compte. Dieu seul importe. Et petit à petit, avec Thérèse, elle nous amène là. Elle nous amène à ce choix de Dieu, dans nos réalités de vie personnelles, hein, quelles qu'elles soient. Détermination, courage, force de caractère, aussi dans la conduite de cette vie d'oraison qui va être, on le verra demain, et Marie-Laurent, le creuset, le lieu de sa sanctification. Mais ça n'a pas toujours été facile pour Sainte Thérèse d'Avila de faire oraison. Vous le savez, pas plus pour elle que pour les carmes, les carmélites apostoliques et les membres du Carmel séculier. Nous n'avons pas toujours envie de prier. Je dirais même, rarement. En tout cas, en ce qui me concerne. Un jour, j'ai confié ça à une jeune que j'avais en accompagnement, et je lui disais, mais moi, je n'ai pas toujours envie de prier, je vais même te dire une chose, je vais rarement prier parce que j'en ai envie. Elle dit, mais père, vous êtes un imposteur. J'ai trouvé ça excellent. C'est excellent. J'ai dit non, je ne suis pas un imposteur. Je ne suis pas un imposteur. Je serais un imposteur si, en n'ayant pas cette envie de prier, je n'allais pas prier. Effectivement. Ou je serais un imposteur si j'allais prier seulement parce que j'en ai envie. Et parce que cette fidélité à la prière, ne s'explique que par le plaisir que j'y trouve. Elle est là l'imposture. Elle est là l'imposture. Donc il faut bien différencier les zones. La zone de l'affectivité sensible dans laquelle nous développons des appétits, des goûts, des saveurs, des envies. Des envies. Et puis la zone de la vie spirituelle, de l'affectivité rationnelle, à travers laquelle et dans laquelle nous faisons des choix. Eh bien, aimer Dieu dans la détermination et le courage, c'est le prier pour sa gloire, nous offrant à sa présence quand on n'en a pas envie et qu'on va même jusqu'à éprouver parfois le dégoût des choses de Dieu. Sainte Thérèse d'Avila nous prend par la main, nous amène dans ce chemin de détermination, de choix courageux de Dieu, hein, qui est au creuset d'une fidélité qui nous permet de traverser le désert, hein, qui nous permet d'aller vers la terre promise, manquant d'eau, manquant de nourriture, manquant parfois de tout, et avec le sentiment qu'on va défaillir en chemin. Thérèse d'Avila continue. Et c'est la raison pour laquelle il y a plus de contemplatives que de contemplatifs. C'est la raison pour laquelle il y a plus de femmes dans le Carmel séculier que d'hommes, parce que les femmes sont plus courageuses. Voilà. Autre point chez Sainte Thérèse, et je crois que c'est le plus fondamental dans cette grâce et dans ce secours général de Dieu dans sa vie, l'humilité. En fait, je pense que le secret, et Marie-Laurent nous l'a dit hier, parce que chez Sainte Thérèse d'Avila, l'humilité, c'est la mère des vertus, le secret, en fait, de la sainteté de Sainte Thérèse d'Avila, vous l'avez vu, hein, c'est pas d'avoir été un étalon de perfection, une expérience de péché très forte chez elle. En fait, le secret de la sainteté, et qui a fait d'elle la grande Thérèse, c'est son humilité. Elle a un grand sens de sa misère. Elle ne se cache pas derrière son petit doigt. Elle sait avoir beaucoup de lucidité sur elle-même. Elle n'a pas peur de confesser son indignité. Et dans la vida, si elle ne raconte pas ses péchés et ne fait pas sa confession publique, c'est parce qu'on le lui a interdit. Mais si elle pouvait le faire, elle serait heureuse de le faire. Parce qu'elle veut qu'on comprenne qu'elle est une pauvre pécheresse. Elle n'est pas une Marie comme petite Thérèse, une fille aînée de l'évangile du Père des miséricordes. Elle est plutôt une Marie-Madeleine. Elle est plutôt du côté du versant du fils prodigue, de la Samaritaine, qui, je vous le rappelle, a eu 5 maris, et à laquelle elle n'hésite pas à s'identifier, à ces 2 grandes saintes, Marie-Madeleine et la Samaritaine. Elle connaît sa misère, elle est lucide, et elle n'hésite pas à la dire, à la confesser à ses sœurs, autant qu'elle peut, autant qu'il lui est permis. Mais nous comprenons bien comment, dans les imperfections génériques qu'elle nous raconte, nous comprenons bien comment il y a des événements de péché très concrets dans sa vie. Je crois que cela, ce sens de sa misère, de sa pauvreté, est très bien résumé quand elle nous raconte que, à l'oraison, le Seigneur endurerait sa présence. Comme un roi, dit-elle, qui accepte la visite de son sujet, qui le trahit, sujet qui sait que le roi sait qu'il le trahit et qui, malgré ça, a le culot de se présenter devant lui. Comment nous rentrons dans la chapelle ? Comment nous rentrons dans l'église ? Comme des fiers à bras qui ont accumulé un capital de vertu, de soi-disant vertu, un capital de bonnes actions qui fait que, qu'un cas, si on met tout dans la balance, on tient la tête et on a au moins 11 sur 20. Et ce qui fait qu'avec 11, on a le droit de passage. Avec 11, on a la carte passe pour paraître devant Dieu. Quelle illusion spirituelle. Si on voyait vraiment l'état de nos âmes, combien nous sommes perclus d'imperfections et de péchés. Je ne sais pas si on aura assez de confiance dans la miséricorde pour oser rentrer dans la chapelle. Je ne sais pas. En tout cas, Sainte Thérèse d'Avila, elle vit l'oraison comme ça. Comme une pauvre pécheresse que le bon Dieu a l'infinie miséricorde et l'infinie patience d'accepter en sa présence. Et donc, vous comprenez bien qu'elle ne va pas revendiquer quoi que ce soit. Elle ne va pas réclamer les oraisons de quiétude, les oraisons d'union et les ravissements, etc. Elle va se faire minus, petite. Je suis déjà bien payée, largement payée, que Dieu accepte que je me présente à lui dans cette vie d'oraison. C'est ça, Sainte Thérèse d'Avila. C'est ça, Sainte Thérèse d'Avila. Voilà pourquoi elle ne demande jamais de consolation et nous invite à ne jamais en demander et considérer toujours la part belle que Dieu nous fait, quelles que soient nos oraisons, fût-elle, cette part belle, une sécheresse spirituelle. Un bon Dieu qui, tout bon qu'il soit, nous laisse au fond du placard comme un vieux manche à balai dont on ne s'occupe pas et qu'on a même oublié au fond du placard. Des fois, on a l'impression que, effectivement, on s'intéresse au bon Dieu, mais il semble que lui s'intéresse peu à nous. Et on râle, et on murmure, et on marronne, comme on dit à Marseille. On marronne. Vous voyez ? Mais pour qui nous prenons-nous ? Pour qui nous prenons-nous ? Thérèse a souvent versé bien des larmes. Son cœur s'est bien souvent brisé et broyé devant le constat de ses résolutions sans lendemain, de ses atermoiements, au point de ne plus oser approcher du Seigneur à un moment donné. Elle raconte que c'est la plus grande tentation de sa vie. Pendant un an, elle a cessé de faire oraison à cause de son indignité. Ce n'était pas de l'humilité. C'était en fait une tentation contre la confiance. Et c'est encore ce deuxième versant du secours de la grâce générale de Dieu dans la vie de Sainte Thérèse d'Avila, la confiance dans la miséricorde. On a l'humilité, mais qui va de pair avec la confiance en la miséricorde. Thérèse a toujours expérimenté, malgré son péché, la fidélité de Dieu pour elle. Toujours prompte à lui pardonner, la poursuivant sans cesse de sa tendresse, malgré ses fautes, avec une infinie patience. Elle se compare à saint Augustin. Elle dit, saint Augustin, il a été appelé par le Seigneur, et puis il s'est élancé à la suite du Seigneur. Et moi, J'ai été appelé, pas une fois, mais 1000 fois. Et j'ai toujours pas répondu à cet appel, et malgré ça, le Seigneur continue de m'appeler, sans se lasser. Je crois que c'est ce visage de Dieu qu'on a à découvrir. Un Dieu qui nous aime à tel point qu'il est attaché à nous et qu'il ne se lasse jamais de nous. Quand même, nous le crucifions sur une croix et que nous lui transportons le cœur avec la lance de notre péché. Toujours, il nous dit inlassablement, j'ai soif, j'ai soif. Les bras sont toujours ouverts, les mains sont toujours ouvertes, écartées, prêts à nous prendre quand nous voudrons, même si c'est à la dernière heure. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. À tout moment, nous pouvons nous retourner vers Dieu et nous jeter dans ses bras. Sa miséricorde pour nous est infinie et il a de la facilité à nous pardonner à cause de ce qui l'attache viscéralement à nous. Nous sommes la petite fille chérie du Père. Nous sommes le petit fils chéri du Père, comme Marius et César. Cette confiance chez Sainte Thérèse d'Avila, c'est quelque chose de très fort. Elle dit qu'au milieu de ses sœurs, c'est comme si le Seigneur s'était appliqué à cacher ses fautes. Parce que le Seigneur voit bien qu'elle est soucieuse de son honneur. Le Seigneur voit bien qu'elle a la hantise d'être prise en flagrant délit de péché. Et la miséricorde de Dieu va jusqu'à la préserver de ce qu'elle redoute justement, hein, d'être démasquée dans son péché. Elle dit que le Seigneur la punissait par ses faveurs. Il la punissait par ses faveurs. Parce que en la punissant par ses faveurs, il lui faisait sentir et comprendre la gratuité de son amour. Et il l'amenait à comprendre que Dieu était tout, qu'elle n'était rien, et que de cela, elle devait se laisser apprivoiser et en venir à l'aimer, d'être rien, et que Dieu soit tout. Dans ce déploiement de bonté qui, pour nous pécheurs, s'appelle miséricorde. Miséricorde, amour qui se penche sur la misère. Un jour donc, et on va terminer là-dessus, Sainte Thérèse d'Avila se trouve au cœur et elle découvre ce petit Christ à la colonne célèbre, hein, qu'on peut contempler encore aujourd'hui au musée de l'Incarnation à Avila. Petit Christ à la colonne qui symbolise tous ses péchés et qui, malgré cela, le cœur d'amour tout navré lui jette un regard d'amour et de tendresse. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Suzanne Stanford, La femme blessée, une psychologue américaine qui a subi un avortement et qui, dans le syndrome post-abortif, est rentrée dans un processus de désespérance. Et au moment de se suicider, elle invoque Jésus, dont elle a entendu parler par quelques-unes de ses amies protestantes. Et dans une vision en image, elle revit la scène de son avortement et elle voit Jésus rentrer dans la salle d'opération. Et elle voit dans le regard de Jésus, qui la regarde comme cela, dans l'événement de son avortement, elle voit dans le regard de Jésus une telle tendresse, une telle compassion, qu'elle est immédiatement libérée de son traumatisme. Elle va reprendre comme cela son métier de psychologue en accompagnant les femmes qui ont avorté pour les faire rentrer en elles-mêmes et redécouvrir ce regard de Jésus qui ne les condamne pas, mais leur propose de reprendre la route de la vie avec lui. L'aventure de Suzanne Stanford, c'est l'aventure de Marie-Madeleine, c'est l'aventure de Zachée, c'est l'aventure de chacun, chacune d'entre nous, c'est l'aventure de Sainte Thérèse d'Avila. Et si vous voulez bien, on va en rester là-dessus. Je n'ai pas le temps de développer, parce que c'est l'heure, la grâce particulière de Sainte Thérèse d'Avila dans sa vie. Mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave, parce que Marie-Laurent va le faire demain. Demain, Marie-Laurent nous parle de l'oraison thérésienne, n'est-ce pas? Eh bien, l'oraison thérésienne va être la grâce particulière à travers laquelle le Seigneur va combler de ses faveurs Sainte Thérèse pour faire d'elle une sainte l'oraison et le creuset de notre sanctification, que ce soit l'oraison de sécheresse ou l'oraison de fruition contemplative, mais ça, c'est moi qui vous en parlerai le 17. Ne manquez pas l'enseignement sur la contemplation le 17.